DW. Droits et libertés.
La semaine dernière, Abdoulaye Batili, l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Libye, a présenté sa démission. Il a dressé un tableau sans concession d'une Libye qui s'enfonce dans le chaos avec deux hommes qui se font la guerre pour le pouvoir au détriment des véritables aspirations de la population. Plus d'une décennie de guerre civile, des inondations catastrophiques en septembre 2023 et surtout l'absence de structures démocratiques ont rendu la Libye très vulnérable à l'influence de milices armées attirées par sa situation stratégique et les richesses de son sous-sol, comme le groupe russe Wagner par exemple. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Le groupe de mercenaires russes Wagner s'est implanté en Libye en 2018. D'après des informations du groupe de réflexion militaire britannique Royal United Services Institute, qui est basé à Londres, la Russie serait en train de mettre en place un réseau de pays qui seraient prêts à la soutenir activement au Proche-Orient et en Afrique. Ce groupe est appelé par l'Institut Entente Roscoloniale. La Libye est un pays politiquement fragmenté, mais riche en pétrole et en or. C'est une cible de choix pour les appétits russes, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Le pays est divisé entre deux administrations rivales depuis 2014. L'ouest de la Libye est administré par le gouvernement d'unité nationale, un gouvernement provisoire internationalement reconnu et négocié par l'ONU, qui est basé à Tripoli et dirigé par le premier ministre Abdulhamid Dbeibah. Il est soutenu par des milices turques et le Qatar notamment. À l'est, avec des implantations à Tobrouk et Benghazi, le gouvernement dit de stabilité nationale est dirigé, lui, depuis 2023 par un autre premier ministre, Osama Hamad. Il est soutenu par l'armée nationale libyenne aux ordres du maréchal Khalifa Haftar, un ancien fidèle de Muammar Kadhafi, allié à la Russie, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et ce sont ces dirigeants libyens, Abdulhamid Dbeibah et Khalifa Haftar, qui ont déçu l'émissaire spécial de l'ONU au point qu'il a présenté la semaine dernière sa démission. Abdoulaye Batili affirme que ses efforts pour faire discuter entre eux les deux rivaux afin de ramener la paix dans le pays ont été vains.
Unfortunately,
malheureusement, mes tentatives pour répondre à leurs préoccupations se sont heurtées à une résistance obstinée, à des tentatives déraisonnables et à une indifférence aux intérêts du peuple libyen.
Abdoulaye Batili a expliqué ne pas pouvoir mener à bien sa mission du fait de l'égoïsme des dirigeants libyens qui ne prendraient pas en compte les besoins de la population.
Les conditions préalables posées par les dirigeants libyens contredisent leur intention proclamée de trouver une solution au conflit qui soit dirigé par les Libyens et qui leur appartienne. Jusqu'à présent, ils n'ont pas démontré leur bonne volonté. Les inquiétudes concernant l'affaiblissement du consensus international sur la Libye grandissent au sein de la population. Les Libyens constatent que leur pays est devenu le terrain de jeu d'une rivalité féroce entre les acteurs régionaux et internationaux, motivés par les intérêts géopolitiques, politiques et économiques, ainsi que d'une concurrence qui s'étend au-delà de la Libye et qui concerne aussi les pays voisins.
Et pourtant, la plupart des Libyens veulent sortir de cette galère, affirme Abdoulaye Batili. La lutte entre les deux camps en présence en Libye est déjà venue à bout du prédécesseur d'Abdoulaye Batili, Yann Courbis. Celui-ci avait démissionné en novembre 2021. Et avant lui, déjà le cinquième émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, avait aussi jeté l'éponge. C'était en mars 2020. La Libye est plongée dans une guerre civile depuis l'intervention militaire franco-britannique soutenue par l'OTAN en 2011 et le renversement de Muammar Kadhafi. Les dernières élections ont eu lieu il y a 10 ans. Le mandat des députés est donc arrivé à terme. Ces propos d'Abdoulaye Batili n'ont pas plu à Taher al-Souni, qui est ambassadeur de la Libye près l'ONU, qui lui a rétorqué ceci.
Ces mots s'adressent à ceux qui brandissent des slogans de justice et les droits humains comme étendard, tout en fermant les yeux sur les scènes de tuerie et de destruction à Gaza, tout en faisant la sourde oreille aux cris des enfants et des femmes ensevelis sous les décombres.
Comme je vous le disais en début d'émission, l'instabilité de la Libye favorise aussi la présence de mercenaires étrangers. De nombreux pays se rendent compte du poids stratégique de la Libye, passerelle entre l'Europe et l'Afrique, et au sous-sol si prometteur.
Je pense que si l'on examine les objectifs de Wagner, en particulier en Libye, il s'agit pour l'essentiel d'apporter un soutien et d'accéder aux recettes pétrolières, plus ou moins indirectement, en soutenant les forces armées arabes et libyennes de Haftar, mais aussi, bien sûr, de s'assurer un accès au continent africain dans son ensemble. En ce sens, la Libye a servi de tête de pont au groupe Wagner.
Tim Eaton, chercheur au groupe de réflexion londonien Chatham House.
Je pense que les cercles politiques américains redoutent de plus en plus que les Russes cherchent à accéder au port avec leur marine dans l'est de la Libye. Il s'agit là d'une crainte majeure des Américains et l'engagement en cours pourrait être à la poursuite de cet objectif ultime.
Le groupe Wagner a été fondé en 2014. Pendant des années, il a été dirigé par Evgeny Prigojine, un Russe proche de Vladimir Poutine, jusqu'à sa rébellion contre le Kremlin en juin 2023. Deux mois plus tard, Evgeny Prigojine est mort dans un accident d'avion avec l'autre tête pensante du groupe Wagner. La structure a alors été rattachée au renseignement militaire russe. Le nouveau chef de Wagner, Andrei Averianov, est suspecté d'avoir supervisé des assassinats à l'étranger et de tenter de déstabiliser des États européens. Hager Ali, chercheur à GIGA, un groupe de réflexion allemand basé à Hambourg.
If you, however, replace Prigojine.
Remplacer Evgeny Prigojine, qui était devenu un risque potentiel pour Moscou, par quelqu'un qui est aussi bien implanté ou qui a beaucoup de liens avec les services du GRU, qui est plus proche du pouvoir, cela permet de lier les opérations du groupe Wagner beaucoup plus étroitement au Kremlin.
Quoi qu'il en soit, les mercenaires qui agissent désormais sous son commandement en Libye sont devenus l'Africa Corps, ou corps expéditionnaire. Une allusion évidente au groupe dirigé en Afrique par le nazi Erwin Rommel durant la Seconde Guerre mondiale, celui qui était surnommé le renard du désert. Du temps d'Evgeny Prigojine, le Kremlin prenait soin de démentir toute affiliation avec les activités des mercenaires de Wagner, en rappelant sans cesse qu'il s'agissait là d'une entreprise de sécurité privée. Désormais, le discours des autorités russes a changé.
Il s'agit d'une expression beaucoup plus directe et ouverte des intérêts de la Russie dans d'autres régions. C'est désormais beaucoup plus facile d'attribuer la responsabilité des actions des mercenaires de Wagner au Kremlin.
Ruslan Souleymanov, un chercheur spécialiste de la Russie et du Proche-Orient basé à Bakou, estime que jusqu'à présent, les autorités ont du mal à faire signer des contrats aux anciens combattants de Wagner pour les rattacher officiellement au ministère de la Défense, soit dit en passant. Parmi les toutes premières personnes qu'Andrei Averianov, le nouveau patron de l'Africa Corps, a rencontré juste après sa prise de fonction en septembre dernier, figurait Gagné, le maréchal Haftar. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement dans ce qu'on peut résumer en un accord apparemment gagnant-gagnant, sécurité contre ressources, selon le rapport de la Russie, l'Institut britannique cité tout à l'heure. Les combattants de Wagner continuent de soutenir ceux de Haftar et en retour, ils sont autorisés à continuer d'utiliser le territoire libyen stratégiquement situé pour le trafic d'armes, la contrebande de drogue et l'exploitation de trois bases aériennes. Ces bases libyennes permettent à la Russie d'acheminer l'or extrait sous la direction de Wagner en Libye vers la Russie, ce qui est toujours bon à prendre pour une Russie sur laquelle pèsent de lourdes sanctions en raison de son attaque contre l'Ukraine. Wagner a également transporté des missiles sol-air portatifs, des munitions, du carburant et d'autres marchandises en passant par la Libye pour les acheminer aux forces de soutien rapide de Hemti au Soudan, qui sont en guerre contre les forces armées soudanaises du général El-Burhan. C'est une analyse récente de Hager Ali de l'Institut GIGA. Voilà pour l'aspect dirigeant, mais dans la vraie vie, pour la population civile de Libye, la présence des combattants russes apporte surtout des violations supplémentaires des droits de l'homme. Dans un rapport de décembre 2021, l'Union européenne parle de torture, de viol de masse, d'exécution extrajudiciaire. Et en décembre 2021, justement, auraient dû avoir lieu des élections en Libye. Mais elles ont dû être repoussées sine die. Aucune des parties en lice n'a été capable ou n'a voulu faire de compromis pour permettre la tenue du scrutin. Et c'est là qu'on en revient à l'aigreur d'Abdoulaye Bathily, l'émissaire spécial de l'ONU qui a jeté l'éponge.
Libyan leaders must reach.
Les dirigeants libyens doivent parvenir à un règlement politique fondé sur des négociations et des compromis. Nous ne pouvons pas permettre que les aspirations de 2,8 millions d'électeurs libyens inscrits sur les listes électorales soient éclipsées par les intérêts égoïstes de quelques-uns. J'appelle le Conseil à tenir compte du rêve légitime de la population.
Aga Ali ne croit pas qu'un retour à un processus électoral sera possible en Libye tant que le groupe Wagner, quel que soit le nom qu'il porte, sera toujours présent dans le pays.
En ce qui concerne les élections, nous devons tenir compte, en particulier dans le contexte du groupe Wagner, du fait qu'il offre des services en plus d'être des tueurs à gages. Ils font de la formation, ils apportent un soutien logistique et pour le transport notamment, dans une situation comme celle de la Libye, où les partis politiques doivent encore trouver leur base d'électeurs, se préparer à entrer dans le processus électoral et où il faut encore prendre de nombreuses décisions concernant le scrutin en lui-même, ce type de désinformation est extrêmement préjudiciable à l'intégrité du processus électoral.
C'est la fin de ce magazine Droits et Libertés. Merci à Zacha Brinkman pour les sons. Vous pouvez podcaster cette émission en allant sur dw.com/français ou la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.